décryptage.
Anne Cantner.
Les chiffres passent quelque peu inaperçus dans un contexte où l'Union européenne peine à mettre en place une politique commune d'accueil des migrants et où le président français durcit le ton sur la question de l'immigration. Contrairement à de nombreux discours entendus en Europe et ailleurs, la grande majorité des migrants africains restent sur le continent. Ils sont loin d'être les plus nombreux. Ils représentent 14% de la population migrante dans le monde. Alors comment déconstruire ces idées reçues ? Bienvenue dans Décryptage. Nous recevons ce soir Audrey Le Noël, sociologue à la chaire Migration et Société au Collège de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Flore Gubert qui est avec nous par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche à l'Institut de Recherche sur le Développement, l'IRD. Nous allons donc essayer avec vous de mieux comprendre les parcours de ces migrants africains. Contrairement à ce que laissent entendre certains discours qui évoquent en Europe un afflux massif, voire même une invasion pour les plus radicaux, tous les migrants africains ne souhaitent pas rejoindre l'Europe, Audrey Le Noël.
Oui, effectivement, les images qu'on peut voir dans les médias, notamment les arrivées cet été qu'on a pu voir, des bateaux d'ONG qui ramènent des migrants, ou encore la frontière à Ceuta et Melilla, ces migrants qui attendent sur auprès des frontières physiques pour essayer d'atteindre l'Europe, peuvent donner l'impression d'un afflux massif, en tout cas de tentatives massives. En réalité, comme vous l'avez souligné, les migrants africains restent avant tout en Afrique. Alors, on peut déjà remarquer que l'Afrique migre moins, de manière générale, puisque les migrants internationaux en Afrique représentent à peu près 2% de la population, contre une moyenne de 3,5% pour la population mondiale. Donc déjà, ça c'est un fait à prendre en compte. Ensuite, effectivement, il y a une majorité de migrants africains qui restent en Afrique, qui migrent en Afrique. Alors, on parle de 53% de migrants africains qui résident dans un autre pays africain. En réalité, ce pourcentage cache des disparités considérables. En effet, notamment les Africains du Nord tendent à migrer beaucoup plus hors du continent. Mais si on regarde l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, on voit que 4 migrants sur 5, voire même plus, en Afrique de l'Ouest, restent en Afrique, non seulement en Afrique, mais dans leur région. Les migrants africains de l'Ouest restent en Afrique de l'Ouest.
Et les migrants d'Afrique centrale, plutôt en Afrique centrale, Afrique australe, plutôt
exactement.
En Afrique australe. Flore Gubert, quelles sont les motivations de ceux qui partent, qui quittent leur pays ?
Elles sont multiples, mais en fait, quand on regarde un petit peu l'orientation des flux, on s'aperçoit que beaucoup des flux en Afrique de l'Ouest, par exemple, se font des pays qui sont à l'intérieur du continent, à l'intérieur de la région ouest-africaine, vers les pays côtiers. Et quand on regarde les sources de revenus de ces personnes qui bougent de façon temporaire, saisonnière ou de façon plus longue, on s'aperçoit soit qu'en fait, beaucoup sont originaires des campagnes et donc tirent leurs revenus de l'agriculture qui connaît une très forte saisonnalité, puisque grosso modo, on peut produire des céréales quand il pleut. Et ben, pendant la saison sèche, ces personnes vont aller vers les pays côtiers où il y a davantage d'opportunités d'emploi pour gagner leur vie pendant qu'il ne pleut pas.
Est-ce qu'on sait ce que représente en termes de proportion le nombre de personnes qui émigrent pour une durée assez courte, des déplacements saisonniers, comme vous pouviez l'évoquer, et ceux qui partent définitivement ?
Alors, c'est très difficile de quantifier ces phénomènes, parce que, par exemple, pour vous donner une idée de la difficulté, quand vous interrogez un migrant qui arrive dans un pays et que vous lui demandez pour combien de temps il pense rester, très souvent, il va vous dire « je vais rester quelques mois et puis je vais rentrer ». Et en fait... Après, tout peut arriver, c'est-à-dire que s'il trouve un emploi qui le satisfait, qui lui rapporte suffisamment, éventuellement, il va faire le choix de rester plus longtemps qu'il ne l'avait anticipé. Et inversement, si c'est plus compliqué que prévu, il va potentiellement rentrer plus tôt. Donc je dirais, les migrants, ils revisent leurs intentions initiales en fonction un peu de ce qu'ils vont trouver sur place.
Oui, c'est peut-être ça aussi qui contribue à déconstruire ces fameuses idées reçues qu'on entend souvent en Europe. En fait, le programme n'est pas forcément mis en place au moment du départ. Et évidemment, il évolue en fonction de la situation dans laquelle se trouve la personne qui émigre. Audrey Le Noël, qui sont ces migrants? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'hommes, de femmes, de jeunes?
Alors évidemment, c'est un peu difficile de dresser un portrait du migrant africain à l'échelle d'un tel continent. Toutefois, effectivement, ils sont en général jeunes. Les études montrent que les migrants internationaux africains tendent à être même plus jeunes que ailleurs dans le monde. Une moyenne de 31 ans versus 39 ans pour le reste du monde. Pour ce qui est de la répartition par sexe, on a des fois l'image du migrant, de l'homme jeune qui part travailler. C'est une réalité. Et néanmoins, les femmes sont très bien représentées dans les migrations internationales intra-africaines, puisqu'elles représenteraient à peu près la moitié de ces migrations, un petit peu moins de la moitié. Donc on parle souvent d'une féminisation des migrations en Afrique et ailleurs.
Ça, c'est un phénomène nouveau, la présence des femmes.
Alors, en fait, justement, je pense que cette idée est à la fois vraie et fausse. C'est vrai en nombre absolu, on a de plus en plus de femmes qui migrent. Mais quand on regarde les proportions sur le temps long, en fait, les femmes ont toujours migré. Aujourd'hui, je pense que quand on se réfère à cette idée de féminisation des migrations, on parle plus d'une une féminisation des migrations autonomes, le fait que de plus en plus de femmes partent pour étudier, pour travailler. Mais sinon, le phénomène en lui-même n'est pas nouveau. Et sinon, pour ce qui est par exemple des qualifications, du niveau d'études, il reste vrai que la plupart des migrants intra-africains sont peu qualifiés, même si tous les migrants en général restent plus qualifiés et ont fait plus d'études que les non-migrants restés au pays. Toutefois, cette tendance semble aussi changer, en tout cas évoluer, puisque beaucoup d'économies en Afrique, comme en Afrique du Sud, comme tous ces pays comme le Nigeria qui se développent, ont besoin de compétences, ont besoin de gens hautement qualifiés. Et donc, de plus en plus, on verra des migrants, on voit actuellement des migrants hautement qualifiés ou ce qu'on pourrait dire semi-qualifiés, qui possèdent une certaine compétence, une formation professionnelle spécialisée et pour lesquels il y a une véritable demande, que ce soit dans des secteurs comme l'industrie, comme l'informatique ou même les services qui demandent de plus en plus de ses compétences.
Donc le niveau de formation augmente, vous nous le disiez, les migrants africains sont globalement plus jeunes que les autres migrants dans le monde. Dans un rapport publié il y a quelques mois, la Fondation Mo Ibrahim a présenté le résultat d'un sondage réalisé auprès de jeunes africains justement, et 40% d'entre eux jugeaient leur situation mauvaise ou très mauvaise. Ce chiffre est assez révélateur, Flore Gubert.
Oui, alors il tient en partie à la situation qui prévaut sur les marchés du travail de nombreux pays d'Afrique. Ce qui se passe, c'est que en Afrique comme ailleurs, on observe une élévation du niveau de qualification de la main-d'œuvre, hein, une élévation du niveau d'éducation avec le développement des infrastructures scolaires et puis la priorité qu'ont mis les pays sur l'éducation. Donc le niveau d'éducation moyen augmente et en même temps, en parallèle, la création d'emplois qualifiés qui correspond au niveau de compétence de la main-d'œuvre augmente bien moins vite. Et donc on a une situation qui est assez paradoxale, qu'on observe dans ces pays et qu'on observe à l'inverse pas du tout dans les pays développés, c'est qu'on a un taux de chômage qui est d'autant plus important que les personnes sont qualifiées. Et donc évidemment, ça crée de la frustration et ça crée éventuellement de la motivation à partir.
Et le nombre d'emplois qui sont créés ne suffisent pas à proposer du travail à toutes ces personnes qui font des études et qui sont de plus en plus qualifiées. Alors toujours selon des chiffres de la Fondation Mo Ibrahim, le nombre de jeunes entre 15 et 34 ans va quasiment doubler d'ici à 2100, alors qu'il va baisser en Europe par exemple. Alors bien sûr, ce sont des estimations, il est difficile de savoir aujourd'hui si la démographie évoluera selon les tendances actuelles, mais si l'on prend ces chiffres, quelles peuvent être les conséquences en termes de migration, Audrey Le Noël?
Alors effectivement, des projections restent des projections. Toutefois, on peut quand même de manière assez sûre faire des projections en termes de population active dans les années qui viennent, puisque souvent ce sont des gens qui sont des individus qui sont déjà nés. Donc effectivement, ça c'est le grand défi à relever pour l'Afrique, hein, parce qu'il faut il faudra effectivement, pour bénéficier de ce dividende démographique, pouvoir absorber, créer suffisamment d'emplois, ce qui malheureusement ne semble pas être le cas pour les prochaines années. Donc indéniablement, ce sera un facteur très fort pour une intensification des migrations. La question donc n'est pas tant est-ce qu'il y aura plus de migrations. Je pense que oui, la question va être de savoir où ces migrants iront. Dans l'état actuel des choses, notamment avec la fermeture des frontières qui se fait en Europe et ailleurs, on peut imaginer un scénario où ces migrations se font avant tout en interne, parce qu'il ne faut pas oublier que la migration interne reste avant tout la migration la plus importante. Elle est 6 fois plus importante que la migration internationale en Afrique, mais également une migration intra-africaine qui se ferait vers les grands pôles d'attractivité en Afrique.
Alors l'un des points essentiels évidemment pour comprendre ces migrations, c'est aussi de voir comment peuvent s'effectuer les déplacements qui sont parfois difficiles en Afrique. Un citoyen africain a besoin d'un visa pour se rendre dans la moitié des pays du continent environ. Il y a une exception, c'est la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui autorise la libre circulation des personnes dans les 15 pays membres. Comment est-ce que cela fonctionne, Flore Gubert? Est-ce que les migrations sont plus importantes en Afrique de l'Ouest qu'ailleurs sur le continent?
C'est sûr que l'appartenance, le fait que les pays d'Afrique de l'Ouest appartiennent à une même communauté, donc la CEDEAO, qui est une communauté économique régionale, hein, qui garantit à travers de conventions la libre circulation et le fait que les ressortissants de ces 15 pays peuvent en principe s'installer et travailler où ils veulent dans ces 15 pays, facilite considérablement la mobilité. Et comme ça se passe d'ailleurs au sein l'Union européenne. Par ailleurs, voilà, il ne faut pas oublier non plus que les frontières, elles ont été un peu tracées. Voilà, elles ont fait que, au final, un Malien qui vit à l'ouest de son pays, quand il se déplace vers l'est du Sénégal, en fait, il est dans un environnement très connu de lui, puisque il s'agit en général du même groupe ethnique, et donc c'est simplement le tracé des frontières qui a fait que, en fait, en se déplaçant, il change de pays. Et donc tout ça, évidemment, le poids de l'histoire et puis l'existence de cette communauté économique régionale fait que la circulation est grandement facilitée.
Flore Gubert, vous parliez des frontières. Effectivement, ces frontières ont été tracées parfois d'une manière qui semble un petit peu arbitraire. Et certains groupes communautaires, certaines communautés se retrouvent de différents côtés d'une même frontière. Audrey Le Noël, est-ce que cela signifie pour autant qu'elles ont été remises en question au fur et à mesure des migrations, ces frontières?
Je pense quand même que l'établissement, notamment au moment des indépendances, paradoxalement, les indépendances ont peut-être renforcé les frontières, puisque ces nouveaux États ont dû un petit peu affirmer leur identité, notamment en durcissant un petit peu ces frontières. Mais effectivement, comme le disait Flore Gubert, il y a toutes ces communautés, ces groupes ethniques, linguistiques qui traversent une frontière et l'autre. Et bon, même si c'est peut-être un peu un cliché, mais les frontières, on va dire, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, restent assez poreuses. On peut encore se déplacer peut-être sans beaucoup de contrôle. Donc les pratiques, en fait, je pense, les pratiques des personnes familiales, les échanges qui sont des échanges, on va dire, ancestraux, qui durent depuis toujours, remettent effectivement les frontières un peu en question.
Le principal pôle d'attraction dans la région en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, où l'on estime qu'un quart des habitants sont étrangers, peut-être plus, selon certaines sources. Et beaucoup travaillent dans le domaine agricole. Pourtant, ils ne sont pas, quasiment jamais, propriétaires de la terre qu'ils cultivent. Flore Gubert, la terre représente-t-elle davantage un socle de richesse ou bien une source de tension, ou les deux?
Je dirais que ça dépend un peu des périodes. C'est vrai que ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur la libre circulation, la possibilité de s'installer, de travailler, est dans certains contextes et à certaines périodes remis en question par l'instauration de nouvelles règles, donc de règles d'accès à la terre, par exemple, ou de nouveaux concepts comme le concept d'ivoirité qui a été mis en avant par en Côte d'Ivoire et qui peut se traduire par le fait fait que cette main-d'œuvre étrangère qui vient chaque année pour travailler dans les plantations, par exemple, se trouve discriminée et se trouve face à des difficultés pour accéder à la terre. Donc après, je dirais que ça dépend un petit peu des périodes et un peu des cycles économiques, c'est-à-dire que on observe en Afrique ce qu'on observe partout ailleurs, c'est-à-dire que dans des phases de croissance, quand les besoins en travail sont très importants, les travailleurs immigrés sont évidemment les bienvenus parce qu'ils permettent de satisfaire les besoins en travail. Et puis inversement, en cas de crise, il faut trouver un bouc émissaire. Et puis les immigrés sont les premiers à être sacrifiés, si je puis dire.
C'est ce qui a été notamment reproché aux autorités sud-africaines il y a quelques semaines de cela, puisque l'Afrique du Sud a connu une nouvelle flambée de violences xénophobes au début du mois. Au moins 12 personnes tuées, beaucoup de boutiques tenues par des étrangers pillées et détruites. Et effectivement, plusieurs personnes, des habitants, des organisations de défense des droits de l'homme, ont accusé le pouvoir d'encourager le rejet des étrangers. Est-ce que, selon vous, Flore Gubert, c'est un discours qu'on entend de plus en plus ?
Je ne sais pas si on l'entend de plus en plus. On l'entend surtout de façon très récurrente, encore une fois. Tout ça est quand même très lié au cycle économique. Quand vous êtes en période de difficultés économiques et de chômage très élevé, comme c'est le cas actuellement en Afrique du Sud, vous avez une résurgence de ces attaques xénophobes et une mise en accusation des travailleurs immigrés. Et puis, il est à peu près certain que quand la situation va s'améliorer, les actes xénophobes diminueront en intensité. On observe ça, à peu près partout dans le monde.
En Europe, la plupart des dirigeants tiennent toujours à établir une distinction entre, d'un côté, les réfugiés et, de l'autre, les migrants économiques. Audrey Le Noël, est-ce qu'il vous semble plus pertinent de parler, en fait, de départ ordinaire, qui serait motivé par des raisons économiques, comme ce que l'on évoque depuis tout à l'heure, et des départs extraordinaires provoqués par des guerres ou des catastrophes environnementales, par exemple?
Bon, ça, c'est évidemment une question très très difficile. Ce qu'on voit quand on travaille avec des migrants, en regardant un peu leur trajectoire, en analysant un petit peu leur motivation pour partir. Donc, et là, je parle pas forcément de contexte effectivement conflictuel, mais que les raisons sont toujours multiples. En général, on a besoin, notamment pour établir des statistiques, de classer les gens. On va parler de migrants économiques, on va parler de regroupement familial, on va parler de réfugiés. La réalité est souvent multiple, protéiforme. On peut passer d'un statut à un autre. On peut être un jour un migrant irrégulier, puis devenir régulier, être un migrant familial, mais avec des motivations clairement économiques. Donc, c'est vrai que il y a forcément un problème avec ces classifications. Et on voit bien aujourd'hui que le statut de réfugié peut, on dit, utiliser, mais en fait, les gens essayent juste d'avoir recours, essayent de trouver un moyen de régulariser leur situation. Pour autant, donc je ne sais pas comment il faudrait peut-être réviser le système. Mais en tout cas, effectivement, ces classifications sont problématiques.
Parce que les causes de départ, vous le disiez, sont toujours, ou très souvent en tout cas, multiples. On parle beaucoup du changement climatique. Est-ce que ça va augmenter le nombre de déplacements?
Bon, en matière de migration, je pense que faire des projections est très difficile, voire impossible, et personnellement, je ne m'y risquerais pas.
Est-ce qu'on a déjà observé alors peut-être une augmentation des déplacements depuis que les effets du changement climatique se font davantage sentir?
Je pense que le problème, c'est que les répercussions des changements climatiques actuellement, elles se voient plutôt au sein des pays, dans un même pays. Des gens vont se déplacer d'une zone à une autre, éventuellement d'un pays dans un pays voisin. Donc c'est avant tout ce type de migration qu'on peut apercevoir. De là, avoir des flux massifs de migrants climatiques, ça, je ne pourrais pas me statuer là-dessus.
Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Flore Gubert, directrice de recherche à l'IRD, et Audrey Le Noël, sociologue à la chaire Migration et Société au Collège de France. Merci à toute l'équipe de décryptage, Alice Ménard, Éléonore Krenik et Jacques Alix. Très bonne soirée à tous et à demain.